الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد قال المؤلف رحمه الله تعالى وأما تأثير الذنوب في صور والخلق فقد روى الترمذي في جامعه عنه صلى الله عليه وسلم أنه قال خلق الله آدم وطوله في السماء 60 ذراعا فلم يزل الخلق ينقص حتى الآن. Parmi les conséquences des péchés, leur effet sur l'apparence des hommes. Leur conséquence sur l'apparence des hommes. L'imam al-Tirmidhi rapporte que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit: Allah a créé Adam et en hauteur il faisait 60 coudées. Puis les hommes n'ont cessé de diminuer jusqu'à nos jours. Puis l'auteur rahimahullah ta'ala nous dit que lorsqu'Allah azza wa jal souhaitera ou voudra purifier la terre des injustices, des dépravés et autres, il fera sortir un homme de la lignée du prophète sallallahu alayhi wa sallam, qui va venir remplir ce bas monde de justice. Naam. Aussi Isa, le prophète Isa ibn Maryam, alayhi salam wa radiallahu anha, descendra. Il descendra. Pourquoi? Parce qu'il, ni il a été tué, ni il a été crucifié. Walakin shubbiha lahum, comme Allah dit dans le Coran. Et il va descendre et il va suivre la législation de Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Et il va répandre l'équité et la justice sur la terre d'Allah azza wa jal. Na'am. Jusqu'à la fin du hadith. Ibn Qayyim rahimahullah ta'ala nous appelle à méditer un exemple. Il s'agit du shaitan et de sa compagnie. Il nous dit, rahimahullah ta'ala, وَتَأَمَّلْ مُقَارَنَةَ الشَّيْطَانِ وَمَحَلِّهِ وَدَارِهِ فَإِنَّهُ لَمَّا قَارَنَ الْعَبْدَ وَاسْتَوْلَ عَلَيْهِ نُزِعَتِ الْبَرَكَةُ مِنْ عُمُرِهِ وَعَمَلِهِ وَقَوْلِهِ وَرِزْقِهِ وَلَمَّا أَثَّرَتْ طاعته في الأرض ما أثرت نزعت البركة من كل محل ظهرت فيه طاعته وكذلك مسكنه لما كان الجحيم لم يكن هناك شيء من الروح والرحمة والبركة. Médite sur la compagnie du shaitan, sa situation, sa demeure, lorsqu'il tient compagnie à l'homme. Lorsque l'homme s'éloigne de la voie d'Allah et qu'il suit la voie du shaitan, médite sur cet état-là. Il tient compagnie au shaitan. Le shaitan le domine. La bénédiction lui est retirée, la baraka. La baraka dans sa vie, son existence, ses actes, ses paroles, sa richesse, tout cela lui est enlevé. Pourquoi? Parce que son allié c'est le shaitan. L'obéissance qu'on lui voue ayant ses conséquences, la bénédiction lui est retirée de tout lieu où il apparaît. Ou bien tout lieu où il a mis en pratique l'obéissance au shaitan, de ce lieu-là on retire la baraka. Il en est de même pour sa demeure. Juste avant, Ibn Qayyim rahimahullah ta'ala nous a montré les conséquences des péchés dans les demeures, dans l'eau, dans l'air, dans la terre, et ainsi de suite. Là, il nous dit, regardez le shaitan, les conséquences sur sa demeure. C'est quoi la destination finale du shaitan? Hein? C'est l'enfer. Donc sa demeure, c'est la fournaise. Il a tellement désobéi Allah Azza wa Jal, que ça a eu comme conséquence, sur son lieu de séjour éternel, d'être l'enfer, wal'iyadhu billah. Na'am. Wa min uqubati dhunub, أن تطفئ من القلب نار الغيرة الذي يلي حياتي وصلاحي كحرارتي كالحرارة الغريزية لحياة جميع البدن. Ibn al-Qayyim rahimahullah ta'ala nous dit parmi les conséquences des péchés, le fait que ça éteigne la jalousie du cœur. Les péchés éteignent dans le cœur le feu de la jalousie, qui est pour lui, le cœur, sa vie et sa rectitude, semblable à la chaleur naturelle pour la vie de l'ensemble du corps. Le corps doit être à une certaine température pour vivre, n'est-ce pas? De la même façon, la jalousie qu'on met dans le cœur du croyant suscite une chaleur, na'am, qui va l'éloigner de se compromettre dans des mauvaises choses. Elle rayera, la jalousie va, qu'on met dans le cœur du croyant, va l'empêcher de tolérer sur lui, dans son foyer, sur ses proches, une dépravation. De la même façon que le corps, na'am, a une chaleur qui le maintient. Cette jalousie-là, elle maintient le cœur en bonne santé. La chaleur et le feu de la jalousie extrait du cœur ce qu'il comporte comme souillure. Vous voyez le soufflet du forgeron lorsqu'il est appliqué sur le fer, sur l'or et autres. Qu'est-ce qu'il fait? Il le purifie, n'est-ce pas? Eh bien, la jalousie attise une chose dans le cœur qui l'amène à se purifier. De la même manière que la forge retire les scories de l'or, de l'argent et du fer. C'est-à-dire lorsque le forgeron applique son soufflet, na'am, applique le feu si vous voulez, sur la matière, il y a des résidus qui vont en être, yani s'en enlever. Ainsi, ça va garder la pureté du matériel ou des matériaux. L'homme le plus noble, le plus appliqué, est celui dont la préoccupation est la plus élevée et celui dont la jalousie est la plus intense envers lui-même, ses proches et l'ensemble des gens. Qui était celui qui avait le plus de jalousie? C'était le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Il avait le plus de jalousie pour sa communauté. Il n'acceptait pas le mal dans sa communauté. Il n'acceptait pas l'ignorance. Il n'acceptait pas le shirk. Il n'acceptait pas que le droit d'Allah soit bafoué. Il n'acceptait pas la perversion. C'est pour ça qu'il a fait toutes les causes possibles et imaginables pour nous éloigner du feu de l'enfer. À un point tel qu'il nous dit, vous êtes comme des volatiles ou comme des petites bêtes lorsqu'on allume le feu. Je fais tout pour vous éloigner du feu, mais vous ne cessez de vous en approcher jusqu'à vous brûler. Vous voyez lorsqu'on allume un feu ce qui se passe? Vous visualisez cette scène? Lorsqu'on allume un feu, il y a beaucoup de bêtes qui viennent. Na'am. Et si tu fais ce geste de la main pour les éloigner, malgré tout, elles reviennent jusqu'à ce que la chaleur et la flamme les emportent. Eh bien, le prophète, alayhissalatu wassalam, s'est comporté ainsi envers nous. Il a tout fait, il a tout donné, il s'est sacrifié. Na'am, jusqu'à se rendre dans des endroits où il a été persécuté, où il a été blessé, sallallahu alayhi wa sallam, pour nous, par jalousie pour sa communauté, pour nous. Il a pleuré, sallallahu alayhi wa sallam, jusqu'à ce que sa barbe soit mouillée et humidifiée pour nous, par jalousie pour sa communauté. Baka an-nabi sallallahu alayhi wa sallam laylatan fa arsala Allahu azza wa jalla Jibril alayhi salam fa qala ya Jibril idhhab ila Muhammad wa salhu ma yubkik. Faja'ahu Jibril fa sa'alahu fa qala ummati ummati. Subhanallah, Nabi sallam yabki la li ajlina khawfan alayna min an-nar. Le prophète sallam pleurait au point où Allah azza wa jalla envoie Jibril, oh Jibril, rentre-toi auprès de Muhammad et demande-lui pourquoi il pleure et ton Seigneur est plus savant. Le prophète alayhi salatu wa sallam répond, ma communauté. Il a peur pour sa communauté. Ne voyez-vous pas le Père miséricordieux, le Père qui craint Allah et qui veut pour sa descendance la piété? Avant de mourir, il a peur pour ses enfants. Il a peur qu'ils ne suivent pas la voix d'Allah et de son messager. Am kuntum shuhada id hadara Ya'qub al-maut. Étiez-vous présents lorsque la mort se présenta à Ya'qub? Et il dit à ses enfants, ma ta'abuduna min ba'di? Qu'allez-vous adorer après moi? C'est ça la préoccupation première des messagers. Est-ce que les enfants vont suivre le tawhid? Est-ce que la communauté va suivre le tawhid? Le prophète alayhi salatu wa salam était celui qui avait le plus de jalousie. Alors Jibril alayhi salam revient à Allah azza wa jal. Et son seigneur est plus savant. Alors Allah azza wa jal renvoie Jibril au prophète Mohammed alayhi salatu wa salam afin de lui dire « Inna sanurdika fi ummatik » « Tu seras satisfait de ce qu'on fera pour ta communauté. » Ça, c'est la jalousie pour ta religion, la jalousie pour ta communauté, la jalousie pour ta personne. Tu n'acceptes pas qu'elle soit plongée dans le feu de ce bas-monde, puis celui de l'au-delà. Le feu de ce bas-monde, c'est les péchés. Et celui de l'au-delà, tu le connais. La jalousie, elle empêche de laisser la turpitude dans son foyer, la dépravation dans ses proches. Et Allah Azza wa Jalla a encore plus de jalousie que le prophète alayhi salatu wa salam pour ses serviteurs. Dans le hadith, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit « Ata'jabuna min ghayrati sa'at, la ana aghyaru min, wallahu aghyaru min. » Sa'ad radiallahu anhu a manifesté sa jalousie pour son épouse. Et les compagnons se sont étonnés de l'expression mentionnée par Sa'ad. Ce qu'il ferait à un homme s'il regardait par le trou de la serrure ou bien le loquet, s'il espionnait chez lui et voyait les femmes de sa famille. Quand les compagnons ont entendu la jalousie de Sa'ad, ils se sont étonnés. Le prophète alayhi salatu wa sallam leur a dit, vous vous étonnez de la jalousie de Sa'ad? Sachez que moi, je suis encore plus jaloux que lui. Et Allah l'est encore plus que moi. Dans un autre hadith, vous connaissez tous le hadith de l'éclipse. Il y a eu une éclipse au temps du prophète, alayhi salatu wa sallam. Et parmi ce que le prophète, alayhi salatu wa sallam, a dit dans la khutbah, « Ya ummata Muhammad, ma ahadun aghyara min Allah, an yazniya abdu. » Ou tazniya amatu. Ô communauté de Mohammed, aucun d'entre vous n'est plus jaloux qu'Allah du fait que son serviteur commette la fornication ou que sa servante commette la fornication, apporté par Al-Bukhari et Muslim. Et d'autres hadiths encore. Il n'y a pas plus jaloux qu'Allah. Wa min ajli dhalika harrama al-fawahish. Et c'est pour cela qu'il a interdit les turpitudes. Paradoxalement, dans le hadith, wala hada ahabbu ilayhi al-'udhru min Allah. Wa min ajli dhalika arsala al-mursalin mubashirin wa mundhirin. Il n'y a pas un qui aime plus donner des excuses à autrui qu'Allah. Naam, c'est pour cela qu'il a envoyé des messagers en tant qu'annonciateur de bonnes nouvelles et avertisseur. Wala ahabba ilayhi al-madh min Allah min ajli dhalika athna ala nafsi. Et nul ne n'aime plus qu'Allah les louanges, c'est pour cela qu'il a fait ses propres louanges. Celui qui a beaucoup de jalousie, ça peut l'emmener à ne donner aucune excuse aux gens. Il tombe dans l'exagération. Pourquoi? Parce qu'il a de la jalousie pour la religion d'Allah Azza wa Jalla. Alors il va jusqu'à dépasser les limites. Et ça, c'est mauvais. Celui qui aime donner des excuses à tout le monde, il peut être faible. Ça peut l'amener à la faiblesse et au laxisme, au point de tolérer l'intolérable. Allah Azza wa Jalla, lui, a la perfection absolue. Bien qu'il ait la jalousie parfaite, en même temps, il aime donner des excuses. Il va détester que tu tombes dans le péché. Naam. Mais en même temps, il t'a envoyé les messagers. Il t'a envoyé ses bienfaits. Lorsque le serviteur commet le péché, il ordonne à l'ange de maintenir la plume suspendue pendant des heures pour voir s'il va se repentir. Il a créé les cieux et la terre. Il a créé une porte. C'est la porte du repentir. Elle est ouverte jusqu'au jour où le soleil se lèvera de son couchant. Et ainsi de suite. Allah Azza wa Jalla nous donne toutes les excuses. Si tu fais une bonne action, tu la multiplies par 10, jusqu'à 700 fois. Si tu fais un péché, non, si tu penses faire un péché, ne le commets pas. On t'inscrit une récompense. Si tu commets le péché, on t'inscrit un seul péché. Si tu te repens, on te l'efface. Hein? Si tu as l'intention de faire une bonne action, puis tu ne la fais pas, on t'inscrit une bonne action complète. Puis si tu la mets en pratique, on t'inscrit l'action, on te la multiplie par 10 jusqu'à 700 fois. Subhanallah, la rahma d'Allah, tabaraka wa ta'ala. Qui aime plus les excuses qu'Allah Azza wa Jalla? C'est pour cela que les savants disent malheur à celui dont un sera plus fort que 700. Celui qui arrive yom al-qiyama avec tout ce qu'Allah lui a facilité, et malgré ça, la balance des péchés est plus lourde que la balance des bonnes œuvres, c'est que vraiment il était mauvais. Comment un peut battre 700? Une bonne action, elle va de 10 à 700. Un péché, c'est que un. Et malgré ça, au quotidien, elle a réussi à amasser ceux qui, un, a battu 700, c'est que vraiment son corps, il est voué à l'enfer. Donc, qu'on ne soit pas ce serviteur. Qu'on ne soit pas ce serviteur. Lorsque tu jalouses la chose, ça va te pousser à être répugné lorsque les limites seront outrepassées. Et si tu aimes fournir des excuses, eh ben, ça va t'amener de la tolérance. Donc, d'un côté, tu seras rigoureux, et d'un côté, tu seras miséricordieux. Ça, c'est l'excellence. Ça, c'est l'excellence. Et Allah Azza wa Jalla a ces deux choses-là. Et dans l'éducation, on doit tirer profit de ça. Celui qui est que dans la peine, et la punition, la sanction, eh ben, il va perdre en miséricorde, en pitié. Celui qui, à l'inverse, il est que dans la pitié, que dans l'excuse, que dans il est encore petit, que dans il comprendra plus tard, que dans mais il faut pas le forcer, et ceci, et j'en passe, hein, eh ben, il va le perdre. Et quand il arrivera à 20 ans et qu'il va lui dire de commencer à prier, il va commencer à lui apprendre le vêtement convenable de celui qui n'est pas convenable, la coupe de cheveux qui est convenable de celle qui n'est pas convenable, comment parler à sa mère et comment ne pas lui parler, à ce moment-là, il aura un tronc d'arbre devant lui. Il n'aura plus une tige malléable. Naam. Donc, c'est quoi la réussite? La réussite, c'est le juste milieu. La réussite, c'est le juste milieu et de donner à chaque événement sa juste mesure. Wala hawla wala quwwata illa billah. Ibn al-Qayyim rahimahullah ta'ala poursuit et dit que la jalousie, ça pousse à répugner et à détester le mal. Et l'amour de l'excuse pousse à la perfection de la justice, la miséricorde et la bienfaisance. Naam. Allah Azza wa Jal, malgré la perfection de sa jalousie, accepte les excuses de ses serviteurs. Non. Alors qu'ils ont commis ce qu'ils répugnent et détestent. Et ça, c'est le paroxysme de la bienfaisance. Le paroxysme de la perfection. Barakallahu fikum. Car chez les créatures, lorsqu'elles ont beaucoup de jalousie pour une chose, ça les pousse à sévir rapidement. Et à ne pas accepter les excuses. Non. Et beaucoup de ceux qui acceptent facilement les excuses, ça les pousse à trop élargir ce domaine-là. Et cela nous amène à une question sociétale vraiment à cette époque, vraiment d'époque. C'est quoi? C'est quelle est notre position face aux pécheurs? S'il y a un frère de la communauté que l'on connaît, un frère connu pour le bien, il est connu pour aimer Allah et son messager. Il tombe dans une faute. Hein? Une faute grave, disons même. Quelle est notre position face à lui? Dites-moi. Comment on devra se comporter face à lui? Et la même question chez les femmes. Une femme de la communauté connue pour le bien, pour sa droiture, pour sa piété. Elle tombe dans une faute grave. Hein? Comment est-ce que ses sœurs doivent se comporter avec elle? Non. Est-ce que par exemple, on répand sa faute? Est-ce qu'on appelle les gens, on dit, j'ai vu une telle, elle a fait ça.
J'ai vu une telle à la commissa, j'ai vu un tel à la commissa. Est-ce qu'on fait ça par exemple? Non, mais pourtant elles le font. Ou non? Est-ce que c'est fait ou bien non? Dites-moi. Ça, ce que je décris là, est-ce qu'il faut le faire? Non. Est-ce que les gens le font? Oui. Illa man rahimahullah. C'est vrai ou pas les frères? C'est la vérité. Et si un frère tombe dans une faute, et qu'il est connu pour le bien, non, est-ce qu'il convient que j'appelle mon copain et que je lui dise, j'ai vu un tel en train de fumer, j'ai vu un tel dans telle rue, il y a le haram, où les gens vont pratiquer le haram. Est-ce qu'on fait ça ou pas? Non. Est-ce que les gens le font ou pas? Hein? Ils le font. Illa man rahimahullah. Ils racontent le haram vu d'un tel ou une telle. Ça, c'est pour les meilleurs d'entre eux, de ceux qui pratiquent ça. Au-dessus d'eux, leurs enseignants et leurs guides sataniques, ils filment cela, ou ils enregistrent cela, et ils propagent cela. Et à qui sera le plus répugnant en information, à qui aura le plus haut rang auprès du shaitan et de leur guide, de leur imam? Ça, c'est la voix des dépravés qui pensent que les autres le sont. Lui, il a glissé. Elle, elle a glissé. Mais lui, il n'a pas glissé. Lui, il est mauvais. Et il aime que le mal se répande dans la communauté. Et il se peut que celle qui a glissé, elle soit meilleure, l'équivalent de la terre, que celle qui a propagé son péché. Et il se peut que celui qui a glissé soit meilleur, l'équivalent de la terre, que celui qui a propagé son péché. C'est pour cela, au début de Al-Wab al-Sayyib d'Ibn Qayyim rahimahullah ta'ala, il rapporte la parole des pieux prédécesseurs. Le serre inna al-abd la ya'si Allah yadkhul bi hadhihi al-ma'siyah jannat Allah. Wa inna al-abd la ya'malu bil hasana yadkhul biha an-nar. Certains salaf disaient, l'homme fait une bonne action, par cette bonne action il rentre en enfer. Et l'homme fait une mauvaise action, par cette mauvaise action, il rentre au paradis. Alors les gens ont dit, comment ça? Il a expliqué. Il fait une bonne action. Puis il tombe dans la vanité. C'est quoi la vanité? Il s'enorgueillit. Il dit, moi j'ai fait, et moi je suis le meilleur. Et il ne cesse de se vanter chez Allah de son action. Hein? Comme s'il avait un mérite chez Allah. Allah, Azza wa Jal, le prend et le met en enfer. À cause de sa bonne action. À l'inverse, le pécheur est tombé dans le péché. Il regrette, il déteste ce péché-là. Hein? Il aime les gens de la piété, mais son âme l'a battu. Le shaitan l'a wassoues. Il a obéi à son âme incitatrice au mal. Mais c'est pas une personne du mal. C'est une personne qui aime le bien, qui aime Allah, qui veut obéir à Allah. Mais il a glissé. Il a glissé, il a chuté. Alors il ne cesse de demander pardon à Allah. Il ne cesse de garder son péché entre ses deux yeux. Il ne cesse de se repentir. Il ne cesse de se voir nul. Il ne cesse de se voir bas. Il ne cesse de regarder les gens avec admiration. Et meilleur que lui. Quand il voit un enfant, il dit, il est meilleur que lui, il a moins de péché. Quand il voit un grand, il dit, il est meilleur que lui, il a plus d'années de prière. Il se méprise. Et il ne cesse d'adorer Allah Azza wa Jalla avec cet état du cœur. Jusqu'à ce qu'Allah soit satisfait de lui et le mette au haut degré du paradis. Et qu'aurions-nous à gagner à dévoiler les péchés de notre frère, dévoiler les péchés de notre sœur, subhanallah. Quant au comportement du croyant, le prophète alayhi salatu wa salam dit, man satara musliman, satarahu Allahu fi dunya wal akhirah. Quiconque couvre les fautes d'un musulman, Allah le couvrira dans ce bas monde et dans l'au-delà. Le prophète alayhi salatu wa salam nous dit, Ya ma'shara man amana bi lisani. Ô vous ceux qui avez cru avec votre langue, mais dont la foi n'a pas pénétré les cœurs. La tu'zul muslimi. Wa la tattabi'u uratihim. Fa inna man tatabba'a urata al muslimin, tatabba'a Allahu awrata. وَمَنْ تَتَبَّعَ اللَّهُ عَوْرَتَهُ يَفْضَحُهُ. Ô vous les croyants, ô vous qui avez cru avec vos langues, mais dont la foi n'a pas pénétré les cœurs. Ne suivez pas les défauts des musulmans. Car celui qui suit les défauts des musulmans, celui qui fouille, Allah va suivre ses défauts. Et celui dont les défauts sont suivis par Allah, Allah le dévoilera même au fin fond de son foyer, au fin fond de sa femme. Hein? Wala hawla wala quwwata illa billah. Il y a des exceptions, comme celui qui sème le désordre sur la terre d'Allah Azzawajal et qui corrompt les gens et qui fait des péchés en public et se vante et ainsi de suite. Lui, à un autre jugement, là n'est pas notre sujet. Donc il faut être dans le juste milieu. Et cela me fait penser à un poème d'Ibn al-Qayyim rahimahullah ta'ala dans lequel il dit وَجْعَلْ لِقَلْبِكَ مُقْلَتَيْنِ كِلَاهُمَا مِنْ خَشْيَةِ الرَّحْمَنِ بَاكِيَتَانِ لَوْ شَاءَ رَبُّكَ لَكُنْتَ أَيْضًا مِثْلَهُمْ فَالْقَلْبُ بَيْنَ أَصَابِعِ الرَّحْمَنِ. Fais que ton cœur pleure pour ces gens-là. C'est quoi l'image ici? C'est un homme pieux qui est face à des pécheurs. Ibn al-Qayyim rahimahullah ta'ala dit, fais que ton cœur il pleure pour ces gens-là. Hein, comme les larmes coulent des yeux par crainte de ton Seigneur. Si Allah avait voulu, tu aurais été comme eux. Et certes, le cœur est entre deux doigts de la main du tout miséricordieux. Ibn al-Qayyim te dit, et Ibn al-Athaymin explique cela, dit ton cœur doit être submergé de deux émotions. Le premier, c'est l'œil de la justice. Il a fait un péché, c'est haram, il a désobéi à Allah Azza wa Jal, il faut dire c'est haram. Hein? Et on va le détester à hauteur du péché. Ça, c'est le premier regard. Le deuxième regard, c'est l'œil de la pitié et de la miséricorde. Parce que c'est ton frère fillah, parce que tu veux son bien comme tu le veux pour toi, parce que le shaitan l'a fait tomber et il a eu un des nôtres. Voici les deux regards que tu dois avoir. Si tu en as un des deux seulement, tu seras soit dans l'exagération, soit dans le laxisme. Et si tu joins les deux, tu seras le meilleur des conseillers. Tu dis pas c'est pas grave, ni c'est grave comme si tu le fais sortir de l'islam. Mais les deux regards. Naam, les deux regards. Barakallahu fikum. Ce sujet est très important. Naam, parce qu'on arrive à trouver des gens qui s'apparentent à la sunna pourtant. On dirait qu'ils aimeraient que leur frère tombe dans le haram. On dirait qu'ils sont tristes si il n'est pas tombé dans le haram. Et si jamais il tombe dans le haram, ils font des réunions pour célébrer son péché. Wal'iyadu billah. Est-ce que ces gens-là ont compris la sunna? Est-ce que ces gens-là ont compris le manhaj du prophète alayhi salat wa salam? Subhanallah. Lisez la biographie de l'imam Ahmed, rahimahullah. Lisez la biographie des pieux prédécesseurs et regardez comment ils étaient avec leurs ennemis. Wallahi, vous allez être choqués. Je n'ai pas dit avec leurs amis. Comment ils étaient avec leurs ennemis? L'un d'eux décède. Ibn al-Qayyim raconte le comportement d'Ibn Taymiyyah et sa noblesse. Il dit, un des plus gros détracteurs d'Ibn Taymiyyah, hein, des ennemis, si vous voulez, des gens du mal, des gens qui allaient voir le gouverneur et ils le poussaient à faire du mal à Ibn Taymiyyah. Quand cet homme est décédé, ses élèves Ibn al-Qayyim et autres ont dit, réjouis-toi, Yashir, un tel est décédé. Il s'est mis en colère, il l'a réprimandé et il lui a dit, tu m'annonces la bonne nouvelle du décès d'un musulman? Allahu Akbar. Tu m'annonces la bonne nouvelle du décès d'un musulman? Il s'est empressé d'aller chez lui. Et il a dit à sa famille, désormais je suis comme un père pour vous. Et tout ce dont vous aurez besoin, ma porte vous est ouverte. Allahu Akbar. Ça c'est le comportement d'Ibn Taymiyyah avec un homme qui lui a fait du mal. Et au moment de décéder, il dit, tout musulman sur terre qui m'a causé du tort, je lui pardonne et je l'excuse chez Allah. Je n'aimerais pas qu'un musulman subisse quoi que ce soit chez Allah par ma cause. Et je pardonne à tout le monde. Allahu Akbar. Et aujourd'hui, tu entends un frère, il dit, Wallah, je te pardonne pas, yom al-qiyama. Et la sœur, elle dit, je te pardonne pas, yom al-qiyama. Et tu peux trouver dans le même foyer, le même sang, deux musulmans. Ils prient dans le même masjid, ils se détestent. Ces gens-là, ils ont étudié ça. La hawla wa la quwwata illa billah. Quand ton frère glisse, hein, et tu viens et tu le trouves au sol, relève-le, couvre-le, cache ses fautes,
Prends-le de côté, conseille-le, parle-lui. Aide-le, sois une béquille pour lui, il boite. Et toi, tu veux lui amputer la jambe. Il boite, il est malade. Toi, tu veux l'enterrer dans son trou. Il y a des hôpitaux. Les musulmans sont très forts dans la médecine. Pourquoi l'emmener au cimetière? Pourquoi vouloir l'ensevelir sous la terre ou dans la terre alors qu'on peut encore l'aider? Hein? C'est ton frère, fillah. Tu dois détester ceux qui le touchent. Tu dois aimer pour lui qu'il se relève. Barakallahu fikoum. Mais lisez les paroles dans le tafsir du début du surat Ghafir, la lettre de Omar ibn Khattab à un homme qui est tombé dans l'alcool. Hein? Wallah, bouleversant. Bouleversant. Et nous, on se pose la question, quel serait notre comportement si on entendait qu'Allah ne nous préserve de cela, qu'un de nos frères, un frère fillah qui assistait au cours avec nous, il est tombé dans l'alcool. Quelle serait notre parole? Quel serait notre comportement? À qui on dirait? Est-ce qu'on l'appellerait lui? Est-ce qu'on le visiterait lui? Ou est-ce qu'on en parlerait entre nous en petit comité? Et qu'on soit sincère dans cela. Qu'est-ce qu'on fait quand on entend qu'un frère est tombé dans le haram? Quel comportement on a? Wala hawla wala quwwata illa billah. J'ai extrapolé ce sujet parce que c'est un fait d'actualité. Hein? C'est un fait d'actualité. Et pire que ça, wallahu a'lam, c'est qu'on se sent même pas concerné. Comme si nous, on avait nos deux pieds au paradis. On dit pas, alhamdulillah, alladhi afani min mabtala. On se voit, nous, en dehors de l'épreuve. On se voit, nous, non sujet à la tentation. Non sujet au péché. Mais qui sommes-nous? Qui sommes-nous pour nous voir à l'abri du péché? Quel qu'il soit. Est-ce qu'on est mieux qu'Ibrahim alayhi salam? Qui a eu peur du shirk akbar apparent en disant wa junubni wa bani an na'budu al asnam, éloigne-moi ya Allah ainsi que ma descendance de l'adoration des asnam. Vous savez c'est quoi l'asnam? C'est tout ce qui est adoré en dehors d'Allah sous forme représentée. Qui a peur d'adorer le Bouddha? On se dit moi adorer le Bouddha, impossible, moi je connais tawhid. Moi j'ai étudié kitab tawhid, moi j'ai étudié salatat al usul. Moi, je suis à la sunna depuis 5 ans, 10 ans, 20 ans. Moi? Ça, c'est Ibrahim alayhi salam. Allah l'a fait son éducation. Allah a fait son éducation. Depuis sa tendre enfance, Allah l'a éduqué. Allah azza wa jal l'a pris en khalil. Vous savez, c'est quoi le khulla? Le khulla, c'est a'la darajat al-hub. C'est le niveau le plus haut de l'amour. Allah azza wa jal a pris Ibrahim en khalil. Hein? Et lui, il a eu peur de tomber dans le péché le plus grave, le plus apparent, le plus évident. Et nous, on se voit à l'abri de tomber dans les péchés. C'est pour ça qu'un des pieux prédécesseurs, Ibrahim al-Taymi, qala wa ma ya'manu al-bala ba'da Ibrahim. Et qui pourrait se sentir à l'abri après Ibrahim? Hein? Est-ce que nous, on est mieux que le sahaba? Est-ce qu'on est mieux que les compagnons du prophète, alayhi salat wa salam, qu'Allah a choisi pour lui comme ministre? Pourtant, le prophète, alayhi salatu wa salam, vient et les trouve en train de parler de le Messie al-Dajjal. Il leur dit, ala ukhbirukum bima huwa akhwafu alayya indi, alaykum min al-Messie al-Dajjal. Ash-shirk al-asghar. Ash-shirk. Les compagnons sont en train de se rappeler la fitna, la tentation de le Messie al-Dajjal. Le prophète, alayhi salatu wa salam, passe et il les entend dans ce sujet. Il leur dit, ne vais-je pas vous informer de ce que je redoute? Plus encore pour vous que la tentation de le Messie al-Dajjal, le polythéisme mineur, al-shirk al-asrar, le polythéisme dans les intentions, le polythéisme dans l'ostentation et autres. Les savants ont dit, si le prophète alayhi salatu wa salam a eu peur pour sahaba du shirk asrar, nous, on doit avoir peur pour nous du shirk akbar. Mais ne redoute le shirk akbar que celui qui l'a étudié. Et qui connaît ses conséquences. Que celui qui a étudié Tawhid. Et qui connaît ses bienfaits. Et sa valeur. Wala hawla wala quwwata illa billah. Et plus le serviteur a ses qualités dont Allah Azza wa Jal est doté, plus Allah l'aimera. Je vais lire en arabe pour que ce soit plus clair.
فَالْغَيُّ قَدْ وَافَقَ رَبَّهُ سُبْحَانَهُ فِي صِفَةِ مِنْ صِفَاتِ. Celui qui a de la jalousie aura été en concordance dans une des qualités d'Allah, la jalousie. وَمَنْ وَافَقَ اللَّهُ فِي صِفَةٍ مِنْ صِفَاتِ قَادَتْهُ تِلْكَ الصِّفَةِ إِلَيْهِ بِزِمَامِ. Et celui qui a été en concordance avec Allah dans l'une de ses qualités, cette qualité-là va le mener par les rênes, na'am, vers Allah, et le fera entrer chez Allah, chez son Seigneur, et le rapprochera de lui, le rapprochera de sa miséricorde, et le dirigera vers ce qu'il aime, ou bien le rendra aimé d'Allah. فَإِنَّهُ سُبْحَانَهُ رَحِيمٌ يُحِبُّ الرُّحَمَا كَرِيمٌ يُحِبُّ الْكُرَمَا عَلِيمٌ يُحِبُّ الْعُلَمَا قَوِيٌ يُحِبُّ الْمُؤْمِنُ الْمُؤْمِنَ الْقَوِي وَهُوَ أَحَبُّ إِلَيْهِ مِنَ الْمُؤْمِنِ الضَّعِيفِ حَيٌّ يُحِبُّ أَهْلَ الْحَيَاءِ جَمِيلٌ يُحِبُّ الْجَمَالِ وِتْرٌ يُحِبُّ الْوِتْرِ. Pour comprendre ce passage, il faut avoir des bases dans la science des noms et attributs d'Allah. Allah Azza wa Jal a des noms et des attributs qui ont la perfection absolue. Et il a donné à ses serviteurs certaines qualités qui peuvent être en concordance dans l'appellation. Par exemple, Allah c'est Ar-Rahim, n'est-ce pas? Et le prophète alayhi salatu wassalam, bil mu'minin ra'oufun rahim. Le nom est le nom, d'accord. Mais la réalité de l'attribut et sa perfection, est-ce qu'elle est semblable, équivalente? Non. Et la règle dit, elle idafa tu tabtadit tarsis. Dès lors que l'attribut est annexé à Allah, il en prend la perfection qu'Allah a. Et dès lors qu'il est annexé à la créature, il en prend le sens qui s'y est au niveau de la créature. Ainsi, il n'y a pas de similitude entre les attributs d'Allah et les attributs de ses serviteurs. C'est clair? Barakallahu fikum. Donc Allah est miséricordieux, il aime les gens miséricordieux. Il est noble, il aime ceux qui sont nobles. Il est savant, il aime les savants. Il est fort, il aime le croyant fort, plus que le croyant faible. Il est pudique, il aime ceux qui ont de la pudeur. Il est beau, il aime la beauté. Il est witr. Il est unique, il aime ce qui est impair. Et ainsi de suite. Écoutez cette belle parole d'Ibn al-Qayyim. وَلَوْ لَمْ يَكُنْ فِي الظُّنُوبِ وَالْمَعَاصِ إِلَّا أَنَّا تُوجِبُ لِصَاحِبِهَا ضِدَّ هَذِي الصِّفَاتِ وَتَمْنَعُهُ مِنَ الْإِتِّصَافِ بِهَا لَكَفَى بِهَا عُقُوبَةً. Si les péchés et désobéissances n'avaient pour toute implication que d'amener son auteur à l'opposé de ses attributs en l'empêchant de s'en parer, ce serait un châtiment suffisant. En d'autres termes, si le fait de désobéir à Allah Azza wa Jal nous faisait sortir de la sphère de ces qualités-là et nous empêchait d'être cet homme qui a ces qualités qu'Allah aime, ces qualités qui nous font rentrer chez Allah, ces qualités qui font qu'Allah nous préfère à d'autres, eh bien la sanction serait suffisante. Allah te châtie en t'empêchant de rentrer dans ces qualités-là, c'est un châtiment suffisant pour s'en repentir. Est-ce que c'est clair? En ayant ses péchés, eh ben, on peut pas être comme Allah aime qu'on soit. Et si Allah ne nous aime pas, il ne nous fait pas rentrer chez lui. Et ne nous rentre pas dans sa miséricorde. De savoir cela, c'est suffisant pour qu'on se repente de nos péchés. C'est ce que veut dire Ibn Qayyim rahimahullahu ta'ala. فَإِنَّ الْخَطْرَ تَنْقَلِبُ وَسْوَسَ وَالْوَسْوَسَ تَصِيرُ إِرَادَ وَالْإِرَادَ تَقْوَى فَتَصِيرُ عَزِيمَ ثُمَّ تَصِيرُ فِعْلًا. Ibn Qayyim ici nous mentionne les étapes de l'agissement. Il n'y a pas un homme qui se lève dehors, il se lève, il sort et il va tuer. Il n'y a pas un homme qui se lève, il va faire la fornication. Il n'y a pas un homme qui se lève, il va voler. Mais il y a un homme qui a regardé le haram. Puis il a pensé au haram. Puis ça s'est renforcé et ainsi de suite jusqu'à atteindre le péché majeur. Donc les gens ne tombent pas directement dans la gravité du péché. Mais c'est d'abord une pensée. Ensuite, une insufflation satanique. Ensuite, ça devient une volonté. Ensuite, ça se renforce et ça devient une détermination dans l'agissement. Ensuite, il passe à l'action. Voici les quatre étapes du passage à l'acte. Est-ce qu'il y a un autre degré? Ibn Qayyim dit oui. Ça devient une caractéristique inhérente à sa personne. Ça veut dire quoi, Qais, inhérent à sa personne? Elle colle à sa peau. Inhérent, yani c'est inhérent à l'humain, la faute par exemple. Hein? Ça lui colle à la peau. Ça devient une qualité, pardon, une caractéristique qui lui colle à la peau, ce péché-là. Il est connu pour ça. Il se lève en pensant à faire ça. Il se couche en regrettant de ne pas l'avoir fait plus. Hein? Le péché devient sa caractéristique, devient son signe distinctif, devient son drapeau. Wal'iyadhu billah. Ibn al-Qayyim rahimahullah ta'ala poursuit et dit, son vêtement devient le péché. Et la jalousie a été extirpée de son cœur, enlevée de son cœur. Et il arrive tellement bas, dans des profondeurs abyssales, qu'il n'a même plus de jalousie face au haram dans lequel il voit sa propre famille, son sang et son épouse. Allahu Akbar. Il y a des gens, ce sont des pécheurs. Mais malgré ça, ils ne tolèrent pas que leurs enfants soient des pécheurs. Il y a des gens, ce sont des drogués. Mais ils n'accepteraient jamais de voir son épouse et ses enfants drogués. On est d'accord. Ibn al-Qayyim dit, certains atteignent un niveau, ou plutôt des profondeurs tellement profondes, hein, qu'ils en arrivent à ce qu'on vide leur cœur de toute jalousie. Et dès lors que ça se produit, أخرجت من القلب الغيرة على نفسي وأهلي وعموم الناس. J'ai oublié, il a plus de jalousie pour sa propre personne. C'est une épave. Il prend plus soin de lui. Il ne se soucie plus de sa propre personne. Certaines mamans remplies de miséricorde disent à leurs enfants, après avoir désespéré qu'ils leur fassent du bien à elles, vous me suivez? Fais-toi au moins du bien pour toi. Travaille au moins pour toi. C'est-à-dire, normalement, tu entretiens ta mère. On est d'accord? Hein? Tu dépenses pour ta mère comme tu dépenses pour ton épouse, tes enfants. Certains, non. C'est leur mère qui les entretient. Je parle pas d'enfant, je parle... Allez, c'est l'enfant. Oui, elle l'a enfanté. Mais je parle d'hommes. Naam, je parle de gens de 20 ans, de 30 ans. Et j'ai déjà entendu certaines mamans dire cette phrase-là. Mais si tu me fais pas du bien à moi, fais-le au moins pour toi. Fais-le au moins pour toi. Allahu Akbar. Alors qu'en réalité, on doit se lever... Peut-être plus pour elle que pour nous-mêmes. Hein? Mais ça, c'est la parole de celle qui a désespéré du bien qui se répercute sur elle émanant de celui qu'elle a mis au monde. Wa la hawla wa la quwwata illa billah. Quand ce cœur ne cesse de faiblir, il arrive à un autre niveau. La yastaqbih ba'da dhalika al-qabih. La chose qui est laide, immonde et répugnante, lui, dans son regard, ça ne l'est plus. Que ce soit lui qui le commette, ou que ce soit autrui qui le commette. Et quand il arrive à ce niveau-là, il est rentré dans la porte de l'anéantissement. Quand il arrive à ce niveau-là, dakhala fi babil halak. On pourrait penser qu'il n'y a plus de profondeur après ce niveau, mais écoutez la suite. Wa kathirun min ha'ula laqtasiru ala adam al-istiqbah bal يحسن الفواحش يحسن الفواحش والظلم لغيره ويزين له ويدعو إليه ويحث عليه ويسعى له في تحصيله. الله أكبر. Même en français, c'est terrible. Des fois, tu lis en arabe, c'est traumatisant. Tu lis en arabe, c'est simplement grave. Même en français, ce que dit ici, wallahi, ce qu'il dit ici, c'est traumatisant, c'est bouleversant, c'est atterrant, affligeant. Beaucoup parmi ces pécheurs-là qui ont perdu leur jalousie. Le caractère immonde de l'acte ne leur suffit pas. Ça, ils l'ont perdu. Mais ils continuent. Et ils en arrivent à embellir dans le regard l'image du qabih, du lait, de l'immon, du sale. Le sale désormais qui est pratiqué, soit de lui, soit de l'extérieur, et ben dans son regard, il lui a trouvé une lueur belle. Dans son regard, il lui a trouvé une beauté. Il ne s'arrête pas là. L'injustice commise sur les gens, il s'en réjouit. Il ne s'arrête pas là. La saleté, la souillure, les ténèbres du péché, désormais, il vient l'enjoliver aux gens. Venez faire le haram. C'est beau, c'est bon, ça ramène du bien. Il invite. C'est un imam du haram. Il invite les gens au haram. Il encourage au haram. Il fait tout pour l'obtenir et que les gens l'obtiennent avec lui, ce haram. C'est pour ça que celui qui n'a pas de jalousie pour les femmes de sa famille, c'est la créature la plus immonde parmi les créatures d'Allah. Et le paradis pour lui, il est haram. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, il a averti contre le dayyuth. Vous savez c'est quoi un dayyuth? Un dayyuth, c'est un homme qui n'est pas un homme. Un dayyuth, c'est un homme qui n'a pas de jalousie pour les femmes de sa famille. Hein? Il est en dessous du niveau des animaux. Il est en dessous du niveau des animaux. Vous voyez le chien, le kelb. Hein? Le chien, le kelb. S'il y a une femelle et qu'un autre kelb souhaite s'approcher de sa femelle, il le mord, il se bat avec lui. Même si c'est un faible, de base, là il devient fort, agressif. Vous comprenez? Le lion, si on s'approche, même pas de sa femelle, de son territoire, s'il sent l'odeur d'un autre lion étranger à, comment est-ce qu'on appelle ça? À sa troupe ou à sa, comment? Non. À son clan, barakallahu fik, eh ben, il le cherche partout. Il s'est même pas rapproché de sa femelle. Juste, il a pénétré ses frontières, il le cherche. Pareillement pour le guépard, pareil, la fourmi. Vous voyez la fourmi? Elle ne tolère pas. Subhanallah, elle ne tolère pas qu'on se rapproche de la femelle. Hein? Mais subhanallah, le dayyuth, lui, il est en dessous d'eux. Il est en dessous des animaux. Le dayyuth, par exemple, aujourd'hui, j'ai vu une image bouleversante. Wallah, qu'Allah azawajal soigne nos cœurs et nous guide. Une femme qui faisait de la balançoire, c'est pas ça le problème. Hein. Une femme qui faisait de la balançoire, son homme qui la filmait et un homme étranger derrière elle qui la poussait. Le corps de la femme venait toucher l'homme qui la poussait, pour pas dire le derrière de la femme, akramakumullah, et il la poussait comme ça et son homme la filmait pour prendre des souvenirs. Est-ce que ça c'est un homme? C'est l'enfant qui l'a dit. Hein? La hawla wa la quwwata illa billah. Wallahi, si on n'avait pas vu, on n'aurait pas deviné ces choses-là. On n'aurait pas imaginé ces choses-là. Hein? Le seul animal qui n'a pas de jalousie pour ses femelles, c'est un seul animal, on l'a rendu haram à la consommation. On l'a rendu haram à la consommation. C'est lequel? C'est celui qui l'a dit. Hein? La hawla wa la quwwata illa billah. J'ai vu 4 petits garçons jouer ensemble. De 4 ans à 6 ans. 2 frères de sang et 2 autres frères de sang, 4 frères filles. Et un petit garçon... Comme vous connaissez les garçons, ils jouent à quoi? Hein? Lui, il a dit au foot. Lui, il a dit à quoi? À la bagarre. Les petits garçons, ils jouent à la bagarre. Hein? Ou bien ils jouent à l'ordinateur, à la PlayStation. Hein? À la bagarre. Donc, un des petits a bousculé un des autres petits. C'est normal, ils jouent à la bagarre. Mais le frère de sang, hein? Il a bousculé son frère Phila qui avait bousculé son frère de sang. Et on lui a dit, pourquoi tu l'as bousculé? Il a dit, parce qu'il a touché à mon frère. Yani, subhanallah, le petit a 5 ans, il a développé de la ghayra. Et toi, humain marié, t'as pas de ghayra pour ton épouse. La hawla wa la quwwata illa billah. Et cet enfant-là, il entend, hein, je précise. Parce que son frère, fillah, il joue, il a pas à défendre son frère parce qu'il a son sang. Non. Il joue entre eux. On défend la vérité. Barakallahu fikum. Un enfant de 5 ans a ça, cette fitra-là. Et tu vois cette image, il a perdu sa rayra. Il a perdu sa rayra. Wala hawla wala quwwata illa billah. La base de la religion, c'est la jalousie. Celui qui a pas de jalousie, il a pas d'in. Parce que la jalousie, c'est le bouclier qui protège le cœur. Et cela protège les membres. Et ça repousse de nous les turpitudes. J'ai traduit ici la parole d'Ibn Qayyim, c'est pas de moi. Le fait de ne pas avoir de raïra fait mourir le cœur. Et quand le cœur meurt, les membres meurent. Ainsi, il n'y a plus de protection pour ce corps. Et l'exemple de la jalousie dans la foi est l'exemple des anticorps pour le corps. Si tu es malade et que tes anticorps sont forts, ça va repousser la maladie. Et si tu te rapproches d'un péché que tu as beaucoup de rayra, ça va repousser le péché. Mais si les anticorps baissent, la maladie va prendre le dessus. Parce que tu pourras plus te défendre. Eh bien, c'est pareil. Pour la personne qui n'a plus de jalousie, na'am, le haram va prendre le dessus sur lui. Avec cette jalousie, il protège sa famille. Il protège ses enfants. Naam. Et dès lors que lui n'est plus là, eh ben, ses ennemis vont convoiter ce qui était à lui. L'Isha a sonné. On va s'arrêter sur cela. On reprendra à wa min uqubatiha dhahabul haya alladhi huwa maddatul hayati lil qalb. On reprendra à parmi les effets des péchés le fait qu'il fasse disparaître la pudeur, qui est pourtant l'essence de la vie du cœur. Wallahu a'lam, wa sallallahumma wa barik ala nabina Muhammad, wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma rabbana atina fi dunya hasanatan wa fil akhirati hasanatan wa qina adhab an-nar. Allahumma aghfir lana dhunubana, kaffir anna sayyatina wa tawaffana ma'al abrar. Allahumma ati nufusana taqwaha, wa zakkiha, anta khayru man zakkaha, anta waliyuha wa mawlaha. اللهم اهدنا واهد بنا واجعلنا هداة مهتدين اللهم يا حي يا قيوم برحمتك نستغيث أصلح لنا شأننا كله ولا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين اللهم إنا نسألك الجنة وما قرب إليها من قول أو عمل ونعوذ بك من النار وما قرب إليها من قول أو عمل اللهم اغفر لنا ولوالدينا وللمؤمنين وللمؤمنات وللمسلمين وللمسلمات وللأحياء منهم وللأموات اللهم اغفر لأمهاتنا اللهم اغفر لأمهاتنا اللهم اغفر لولاة أمورنا ولعلمائنا ولمن له حق علينا. Un de nos très chers frères, le frère Nu'man de la ville de Duni, était un frère très cher à notre cœur, un frère très pieux, أحسبه كذلك والله حسيبه. C'est un frère qui aimait beaucoup son Seigneur, qui parlait beaucoup de tawhid, qui préservait la prière à l'heure, et qui était d'une douceur grandiose. Ce frère-là est décédé ces jours-ci. On demande à Allah Azza wa Jal de l'accueillir dans sa miséricorde, de lui pardonner, de l'élever en degré en pas dans son paradis, de faire miséricorde à son épouse, ses enfants, de leur accorder l'endurance de penser leur douleur, et de les préserver jusqu'à sa rencontre. Subhanak Allahumma wa bihamdik, ashhadu an la ilaha illa ant, astaghfiruka wa atubu ilayk. Assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh.